Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Découvrez le nouveau café érable Pacan de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline.
C'est mardi, jour où on parle d'histoire.
Les actualités de l'histoire avec Dave Noël et Antoine Robitaille.
Mais bonjour Dave Noël.
Bonjour Antoine.
Dave Noël, notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au Devoir. Auteur, entre autres, de Montcalm, général américain. Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. Commençons par une revue de presse. Donc, tu nous fais un compte-rendu d'un article intéressant.
Oui, c'est publié dans le bulletin d'histoire politique, dans la dernière édition du bulletin. C'est un texte de Justin Richard Dubé, un historien de l'Université du Québec à Rimouski.
Ouais.
Lui s'intéresse au mouvement annexionniste canadien-français entre les rébellions patriotes de 1837 et 1896, donc la fin du 19e et l'élection de Wilfrid Laurier.
Annexionnistes, donc, ceux qui voulaient s'annexer aux États-Unis.
Oui, aux États-Unis. Donc, à l'époque, c'était...
Dont Papineau.
Dont Papineau, oui. C'était une opportunité. Le Québec a failli devenir un État américain à trois reprises. En 1775, quand les Américains envahissent ce qui est déjà le Québec aurait pu devenir le 14e État américain. Lors de la guerre de 1812, si les Américains avaient remporté cette guerre-là, le Bas-Canada à l'époque aurait pu devenir le 19e État. Et en 1838, donc lors des rébellions patriotes, le Bas-Canada, l'ancêtre du Québec, aurait pu devenir le 27e État américain. Donc, on voit que les États-Unis se sont constitués avec le temps et à plusieurs occasions, il y a des fenêtres qui se sont ouvertes pour que le Québec rejoigne l'Union américaine. Ça ne s'est pas produit pour des raisons essentiellement militaires.
Mm-hmm.
Mais donc, dans les années 1830, le mouvement patriote qui est au Bas-Canada réclame plus de démocratie. Mais dans le cadre de l'Empire britannique, on se revendique des grands penseurs de la mère patrie de la Grande-Bretagne.
On veut être des sujets de la reine d'Angleterre, comme les Anglais d'Angleterre, c'est-à-dire avoir la possibilité de voter puis d'avoir une vraie assemblée d'où sera issu un gouvernement responsable, pas une assemblée un peu fantoche comme celle qu'on avait ici.
Oui, tout à fait. Par contre, avec l'échec des rébellions patriotes, donc le soulèvement qui se produit en 1837, les troupes britanniques remportent les batailles de Saint-Denis, de Saint-Charles, dans la vallée du Richelieu. Mais il y a une frange du mouvement patriote qui se radicalise et qui, constatant qu'on est dans un cul-de-sac, estime que l'Union américaine serait envisageable et souhaitable. Papineau, d'ailleurs, va même le considérer et il va devenir un de ses partisans, comme le rappelle le texte du bulletin d'histoire politique. Donc, on passe de cette idée-là comme épouvantail politique à une éventualité qui est envisagée.
Lui-même s'est sauvé aux États-Unis. Hein?
Oui, c'est ça. Donc, il est en exil à partir dès la fin de 1837. Il va d'abord s'installer à Albany, puis après ça, il va en France. Et il ne revient qu'en 1845, quand les choses se sont un peu calmées. On a eu les patriotes envoyés en exil en Australie. Il y a eu des pendaisons. Mais donc, la situation se calme et lui, il revient. Et puis, à l'époque, ça peut paraître, extrême aujourd'hui, l'union du Québec aux États-Unis. Mais à l'époque, c'est encore en magma. On est en 1837-38. On est seulement une cinquantaine d'années après la fin de la Révolution américaine.
Ben oui.
Ce pays-là se construit à mesure. À ce moment-là, la Californie est encore mexicaine, l'Alaska est russe et le Texas est indépendant depuis 1836, donc ça fait seulement un an.
C'est mouvant encore.
Il y a une mouvance. Et oui, on est avant la guerre de sécession qui va vraiment...
Il n'y a rien de cristallisé comme ce qu'on voit aujourd'hui. Là.
C'est exactement. Puis la guerre de sécession va un peu le faire. Ça va un peu figer les choses. Et jusqu'à cette guerre-là, il y a plusieurs États du Sud, notamment, qui s'imaginaient que c'est encore possible de quitter l'Union, mais la guerre va démontrer que c'est pas aussi simple que ça.
Mm-hmm.
Et puis aussi, on se rappelle que c'est sûr qu'avec le recul, avec ce qui s'est passé en Louisiane, l'assimilation des francophones, ça pouvait sembler un suicide national, si on veut, de s'unir aux États-Unis, mais en 1812, quand la Louisiane devient un État américain, on adopte le Code civil. Donc, il y a quand même des possibilités. Il y a peut-être une petite naïveté du côté des politiciens louisianais à l'époque, qui sont quand même majoritairement francophones en 1812. Mais quand même, les francophones de la Louisiane vont demeurer une force politique importante jusqu'à la guerre de sécession. Et c'est vraiment par la suite que ça va s'effondrer avec la hausse de la démographie anglophone. Donc, en 1837, c'est encore une possibilité présentable, si on veut. Et c'est ce que le texte démontre, c'est que c'est pas un renoncement à la nation à l'époque de Papineau de vouloir se joindre aux Américains à ce moment-là. Et puis, le mouvement annexionniste québécois ou plutôt bas-canadien, pour rester avec les termes de l'époque,
ouais,
va se maintenir malgré la guerre de sécession qui donne une mauvaise image du voisin du Sud et malgré la Confédération canadienne de 1867.
Mm-hmm.
Notamment, Hector Fabre va faire un discours prônant l'annexion en 1871.
Ah,
et même,
oui?
Même le journal La Patrie d'Honoré Beaugrand, qui a été maire de Montréal,
oui,
dans les éditoriaux, selon l'auteur du texte, entre 1892 et 1896, il y a plusieurs textes dans lesquels on juge que les Américains seraient moins radicaux que les Anglo-Saxons que nous connaissons dans le Dominion. Donc, c'est une option...
Pour revenir à la Confédération, Dave, on peut dire qu'il y a le mouvement radical républicain de Papineau chez les patriotes qui finalement débouche sur l'annexionnisme. Mais il y a l'autre mouvement inverse, ceux qu'on a appelés...
Les réformistes.
Les réformistes, voilà. Éric Bédard s'est penché là-dessus longuement. Donc, eux, ils sont devenus les pères de la Confédération. On pense à Georges-Étienne Cartier, entre autres.
Tout à fait. Et ils ont un peu gagné leur pari.
Oui.
Et c'est ça. Et aussi,
mais l'annexionnisme demeure quand même.
Demeure jusqu'à l'élection de Wilfrid Laurier comme premier ministre du Canada, okay, à Ottawa en 1896, où là, vraiment, on voit qu'il y a d'autres possibilités. Et c'est à partir vraiment de ce moment-là que, définitivement, les deux solitudes du Canada se définissent en opposition aux Américains davantage.
Mm-hmm.
Et puis là, ça devient complètement inimaginable de s'unir aux voisins.
Complètement inimaginable, Dave?
Pas tout à fait. Selon certains...
Non, c'est ça.
Oui, je sais à quoi tu fais référence, au parti 51 pour le 51e État américain.
Ben oui, j'ai déjà interviewé son chef, un monsieur Mercier, Hans Mercier,
d'ailleurs,
la Beauce.
Je pense qu'on a un petit extrait de leur programme.
La nation québécoise en est une de fierté, de passion et de culture. Mais certains défis dépassent nos frontières et notre pouvoir décisionnel est souvent limité. Pour un Québec qui désire grandir et faire une différence dans le monde, une réelle solution existe. Devenir un État souverain, membre de l'Union des États-Unis d'Amérique.
Donc, le Parti 51, on n'en entend pas beaucoup parler, mais est-ce que l'annexionnisme aujourd'hui, est-ce qu'il est appuyé par une partie de la population québécoise?
C'est difficile à évaluer. Le Parti Québec, le Parti 51 existe toujours et il est toujours enregistré au DGEQ.
Mm-hmm.
En 89, quand il a présenté des candidats, il a récolté 3846 votes, mais il n'avait présenté que 11 candidats, surtout dans des comtés anglophones. Et aux élections 2018, les dernières, ils n'ont présenté que 5 candidats,
mm-hmm,
et ils ont récolté 1117 votes. Donc, concrètement, on voit que ça se matérialise.
Un micro-parti.
Tout à fait, oui.
Tu parlais du bulletin d'histoire politique, la dernière livraison. Il y a un autre texte sur Louis-Joseph Papineau dans la même édition.
Oui, cette fois, ça concerne l'expression « la tête à Papineau ».
Oui.
C'est un texte de l'historien Christian Blais de l'Assemblée nationale, qui est juste à côté d'ici.
Ben oui.
Lui s'intéresse
on
à l'origine.
Salue.
On salue, oui. Il s'intéresse à l'origine de cette expression « ne pas avoir la tête à Papineau ».
D'où ça vient? C'est parce qu'il s'est sauvé?
Oui, à la base, c'est ça. C'est que quand on a les rébellions patriotes de 1837, Papineau se sauve au sud de la frontière et les autorités coloniales mettent sa tête à prix pour 4000 piastres. Ça équivalait à son salaire annuel d'orateur à l'Assemblée nationale. L'orateur, c'était le président de l'Assemblée, l'Assemblée législative à l'époque, qu'on disait. Mais donc, on utilisait...
Qui lui a valu une statue qui est devant le Parlement.
Avec les bras un peu figés.
Et les pantalons de lycra.
Oui, oui, une statue, comment dire...
Réaliste,
oui.
Oui, oui. Donc, il a quand même ses vertus.
Oui. Donc, Papineau, sa tête est mise à prix.
Non, et... il faut expliquer aux gens,
oui,
que j'ai fait un texte très critique des statues autour du Parlement il y a quoi, 15 ou 20 ans. Et mon Dieu, ça ne nous rajeunit pas. Et je regrette un peu ce texte-là. Je trouve que j'ai été un peu trop sévère.
OK. D'ailleurs, tu dénonçais à l'époque le...
Réalisme péquiste.
Le tissu qui était manquait un peu de fini, contrairement aux œuvres de Louis-Philippe Hébert, par exemple.
Ah,
on a l'impression vraiment que les corps sont habités.
On a l'impression parfois que l'art de statuaire...
Le statuaire, oui.
Ouais, c'est perdu. Mais excuse-moi, je referme cette parenthèse.
Donc, la tête de Papineau est mise à prix pour 4 000 $. Et l'expression, c'est difficile à évaluer quand est-ce qu'elle émerge. Christian Blais analyse plusieurs textes. Il voit qu'elle apparaît dans différents contextes, mais elle se diffuse surtout après la mort de Papineau. 20 ans après sa mort, en 1891, il y a un texte de La Presse qui l'évoque, ne pas avoir la tête à Papineau, qui est dans le sens de ne pas être, ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre telle chose. C'est dans ce sens-là qu'elle émerge vraiment à ce moment-là. Et puis, lui, il suit l'évolution dans son texte, il suit l'évolution de l'expression, sa popularité à travers les journaux. Et puis, il analyse sa transplantation au Parlement, au Salon Vert puis au Salon Bleu, où l'expression est notamment employée par Camille Sanson et Claude Charron. D'ailleurs, elle est utilisée 37 fois au Salon Bleu entre 1942 et 2019. Et il rappelle aussi que l'expression n'est toujours pas dans le registre des propos non parlementaires. Donc, elle n'est pas interdite. Elle pourrait toujours être utilisée.
Et la bonne expression, là, soyons précis, c'est « ça ne prend pas la tête à Papineau », c'est ça?
C'est ça, oui. « Ça ne prend pas la tête à Papineau ».
OK. « Ça ne prend pas la tête à Papineau ». Donc, nul besoin d'être très intelligent.
Voilà.
OK, c'est ouais. ça. C'est le contraire du pogo qui est pas le plus décongelé de la boîte.
C'est ça.
OK, oui, correct. Voilà. Alors, donnons la référence exacte de l'endroit où on trouve les textes sur Papineau. C'est le Bulletin d'histoire politique, volume 29, numéro 3. C'est l'automne 2021, mais ça vient d'être diffusé. Donc, on vous invite à aller voir cette excellente revue, moi, que je lis depuis, quoi, une vingtaine d'années, certain. Dave, deuxième sujet, on sait que tu aimes les cimetières, mais c'est vrai quand même. Tu m'as déjà amené lors d'un jogging voir des tombes célèbres dans nos cimetières, puis c'est quand même fascinant. Et les gens, en temps de COVID, ont redécouvert leur parc, ont besoin d'espaces verts et... Il y a des cimetières. Donc, tu nous indiques aujourd'hui un endroit intéressant que tu m'as montré. C'est fascinant, cette histoire. Raconte-nous là, la curiosité funéraire du jour.
Oui, donc les parcs, les cimetières, c'est un endroit vraiment à découvrir. Les gens, souvent, certaines personnes sont mal à l'aise d'aller là. C'est un endroit très...
Lugubre
un peu. Par contre, il y a certains cimetières qui sont vraiment des sites de patrimoine, là, avec les monuments en pierre très anciens. Et l'un d'eux, c'est le cimetière Saint-Charles à Québec, qui est situé entre la rivière Saint-Charles et la rue Saint-Vallier, qui est un des plus anciens chemins du Québec, d'ailleurs. Et puis, à l'entrée de ce cimetière-là, on trouve le tombeau de Napoléon II, qui est le fils de Napoléon Ier, celui qu'on connaît
tous. C'est celui qu'on appelait l'Aiglon, le jeune.
Oui, le roi de Rome, c'était son titre. Un peu comme en Angleterre, on a le prince de Galles, ben lui, c'était le roi de Rome. Et Napoléon II, il est né en 1811, il est décédé en 1832 de la tuberculose. Okay. Il n'a pas régné vraiment, en fait. Les bonapartistes vont calculer une quinzaine de jours après l'abdication de Napoléon à Waterloo.
OK.
Par contre, ça n'a jamais été reconnu par les autorités. Lui, d'ailleurs, il n'était même pas à Paris à ce moment-là. Il était à Vienne, dans la famille de sa mère, parce que Napoléon Ier a marié une princesse autrichienne. Et il y avait Napoléon, en 1815, à Waterloo, il revenait d'un premier exil. C'était compliqué. Tout ça pour dire que Napoléon II va passer sa vie, non pas en France, mais en Autriche.
Mais c'est pour ça que l'autre Napoléon qui a gouverné la France, c'est Napoléon III.
Hein, oui, il est le neveu de Napoléon Ier.
C'est ça, exactement.
Lui, il va prendre le chiffre suivant en considérant qu'il y a eu effectivement un deuxième, alors que dans les faits, le 2 n'a pas vraiment régné, tout comme Louis XVII n'a pas tellement régné entre Louis XVI et Louis XVIII.
C'est ça.
C'est un peu parce qu'il faut se rappeler qu'en 1815, Napoléon II a 4 ans. C'est un enfant à ce moment-là et le contexte ne favorise vraiment pas son arrivée au pouvoir, surtout après ce que Napoléon a fait en revenant d'exil d'une île au large de l'Italie. Et là, pour son deuxième exil, on va l'envoyer
plus loin. C'est les 100 jours,
ça. C'est les 100 jours. Pour le deuxième exil, on va l'envoyer dans une île plus éloigné, qui est Sainte-Hélène, dans l'Atlantique Sud.
Mm-hmm. Napoléon II... Mais comment ce tombeau-là se retrouve ici?
Ben, c'est un peu lié à tout ça, c'est un effet domino. La mère de Napoléon II, donc Marie-Louise, elle est quand même duchesse de Parme en Italie. C'est un peu un petit ensemble qu'on lui donne pour, lui trouver une place convenable pour elle. Et elle va laisser son fils en Autriche, il va être élevé à la cour de Vienne. Et elle s'installe en Italie. Et au décès de Napoléon II de la tuberculose, il est encore très jeune, elle espère rapatrier son corps dans le duché de Parme et l'installer au cimetière, dans un beau sarcophage de granit blanc italien. Mm-hmm. Et c'est pas ça qui va arriver. Il va être enterré en Autriche, Napoléon II, qui a jamais eu, qui portait pas ce titre à ce moment-là, c'était le duc de Reichstag. Et donc, le tombeau va rester vacant. Et dans les années 1850, il y a un marchand de bois qui s'appelle William Venner, un marchand de Québec, de Saint-Roch. Lui, il lui fait une petite tournée là-bas, il voit ça, le sarcophage vide, et il la jette, tout simplement. il le fait démonter, il l'amène par bateau à Québec, et il le remonte dans le cimetière Saint-Charles, qui vient tout juste d'être ouvert.
Près d'une des entrées, hein? C'est...
Directement à l'entrée, et le monument est inauguré en 1861. Le sarcophage blanc est là, il y a aussi une statue grecque, qui est sur le sarcophage, et lui, il fait construire, Venner, une espèce de petit temple néo-corinthien, et c'est Baillarger, l'architecte Baillarger, qui va le fabriquer.
Célèbre architecte de Québec.
C'est ça, donc on voit vraiment la différence entre les deux monuments. C'est deux monuments en un, finalement, mais le monument de Napoléon II, c'est vraiment le sarcophage blanc.
Et, je vais mettre la photo sur notre page Facebook de là-haut sur la colline.
Oui. C'est un très beau monument, majestueux. C'est pas indiqué. J'aime beaucoup ça, les monuments qui sont pas signalés comme ça. C'est un peu un secret d'initié. La statue grecque avec.
Nos auditeurs sont des initiés.
Tout à fait.
Oui, c'est ça, grâce à cette chronique.
Donc, la déesse grecque va disparaître. Elle va être remplacée par un.
Oui, parce que c'était une référence païenne.
Il y a deux hypothèses.
Ah.
J'ai lu que le matériel, le marbre blanc n'aurait pas survécu aux hivers québécois. Donc, la déesse aurait été retirée. Et il y a d'autres qui prétendent que c'est parce qu'elle avait les seins nus à l'entrée du cimetière. Donc, la statue a été retirée pour mettre un Jésus doré à la place. Donc, il y a un peu une autre incongruité qui s'est ajoutée au monument avec le temps. Et Venner, lui, va être enterré là en 1890. Et puis...
Ah oui, c'est sa tombe à lui.
C'est sa tombe à lui. Il a fait installer là pour lui-même. Et en 1988, j'ai pas vu beaucoup de références au monument avec les années, mais en 88, il va être vandalisé par un individu qui mandaté par Dieu. Il va surtout attaquer la statue du Jésus en Sacré-Cœur. Donc, le monument en tant que tel va être assez épargné. Il est toujours en relativement bon état à l'œil nu. Et quant à Napoléon II, lui, il va faire un dernier voyage funéraire. Il avait été enterré à Vienne en 1832. Oui. Et en 1940, lorsque Hitler envahit la France et fait la conquête de la France, dans un geste de réconciliation, il décide de faire le transfert de la dépouille de Napoléon II jusqu'aux Invalides pour le réunir avec son père Napoléon Premier. La cérémonie va être faite de nuit parce qu'à ce moment-là, les relations entre la France occupée et le régime hitlérien n'est pas au meilleur.
Hitler était fasciné par Napoléon, évidemment.
Oui, et la dépouille de Napoléon II se trouve toujours aux Invalides. Elle est restée là, donc c'est son dernier voyage en 1940.
Fascinant. Merci beaucoup, Dave, de Paris à Parme, en passant par l'Autriche pour aboutir à Québec.
Merci, Antoine.
On se reparle la semaine prochaine. Et c'est ainsi que se termine Là-haut sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.